Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Le 3 octobre dernier a commencé le synode des jeunes, un rassemblement d'évêques venus du monde entier qui se tient à Rome jusqu'au 28 octobre prochain afin de faire plus de place aux jeunes dans l'Église, mais aussi de leur laisser un peu mettre la pagaille, selon l'expression même du pape François. Mettez la pagaille, c'est justement le titre du livre du père Arnaud Franck, curé de la paroisse étudiante de Toulouse, un livre pour comprendre la pensée du pape à l'égard des jeunes. Arnaud Franck, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc curé de la paroisse étudiante à Toulouse et responsable du service des vocations pour le diocèse. Et donc vous avez écrit un ouvrage paru il y a peu de temps aux éditions Bayard intitulé « Mettez la pagaille, le pape François parle aux jeunes ». Ouvrage, je le dis, qui a été préfacé par frère Aloïs, prieur de Thésée, qui a pris la suite du frère Roger et ce haut lieu de rassemblement en France, en Bourgogne, des jeunes. Qui ne désemplit pas. Cette émission intitulée donc Pagaille dans l'Église, place aux jeunes. C'est un livre vraiment passionnant, je vous le disais en préparant l'émission, même quand on est payé pour suivre un petit peu l'actualité du pape François, de lire ce qu'il peut dire, c'est vraiment très très beau. Je sais pas quelle est ma première question, ça sera qu'est-ce que vous avez peut-être découvert du pape François? Parfois, c'est ce qui ressort un peu du film de Wim Wenders, ou ce que j'en ai vu, on a l'impression que ça n'est pas qu'un leader, c'est une espèce de grand-père, à l'échelle de la planète. Est-ce que c'est l'impression que ça vous a fait aussi ?
Oui, pour reprendre le titre de ce film, c'est vraiment un homme de parole. Il a une parole précise, claire, juste, très, très juste. Moi, comme pasteur, je cherche à être proche des jeunes et à leur adresser une parole juste. Et chaque fois qu'il s'adresse à eux, il s'adresse comme un père, comme un grand-père parfois, il ose le dire. Mais j'oserais dire aussi comme un frère qui sait les écouter et qui sait ce qu'il y a dans leur cœur. Alors j'étais moi très heureux d'écrire ce livre parce que comme aumônier des étudiants, j'ai passé toute une année avec François et à l'écouter, surtout quand il s'adresse aux jeunes.
Voilà, c'est un livre roboratif quand même, il fait un peu plus de 300 pages, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas picorer dedans, parce qu'en fait il est organisé de manière assez simple, selon des grands thèmes, on y reviendra. Vivez, croyez, rêvez, aimez, comme autant d'adresses du pape François aux jeunes. Quelques mots peut-être à propos du synode. Le 6 octobre dernier, donc samedi soir dernier, le pape François donc a eu un discours frappant à l'adresse des jeunes. Ce synode va fonctionner de manière un petit peu particulière. Est-ce que vous pouvez peut-être nous réexpliquer en quelques mots ce qu'est un synode, pour ceux qui ne le savent pas, et puis les nouveautés, on va dire.
Depuis le Christ et avec lui, les apôtres ont toujours cherché à se mettre ensemble pour ouvrir le chemin vers le royaume. Donc le mot synode, c'est un terme grec qui veut dire marcher ensemble. Et donc l'Église se rassemble à des moments précis comme les conciles. Et lors du dernier concile, qui a été un événement historique où les évêques se sont retrouvés et finalement ça a été un événement de toute l'Église, Paul VI, qui va être canonisé le 14 octobre prochain, au moment du synode sur les jeunes, c'est lui qui, avec les pères conciliaires, se sont dit « mais il faut qu'on se retrouve de manière régulière comme ça, un synode ». Voilà, tous les 2, 3, 4 ans.
Donc on fait pas que faire le point, on essaye d'orienter la vie de l'Église. En tout cas, ça a été le cas pour, par exemple, le synode de sur la famille.
Oui.
Il y a des nouveautés qui sont sorties au début de l'année, en cette rentrée 2018,
oui.
Quant à la manière dont ça
François met la pagaille, c'est lui le premier qui met la pagaille. Il y a des réelles nouveautés, c'est-à-dire que en mars dernier, le pape a convoqué un pré-synode. Donc il y a un synode que l'on vit en ce moment, mais il a voulu rassembler les jeunes du monde entier et les écouter et les mettre finalement en synode. Ça c'est nouveau et il le veut maintenant pour les prochains synodes selon la nouvelle constitution qu'il a signée, Episcopalis Communio,
Donc à chaque fois que l'on parle de quelque chose, on commence par réunir les intéressés, un synode sur la famille.
Oui, et puis même au préalable de se mettre à l'écoute de tous les baptisés dans le monde entier, puisque le document préparatoire est connu de tous, que chacun peut fournir sa synthèse et son avis, mais effectivement, il y a ce pré-synode qui va être nouveau et aussi les répercussions qu'il y aura dans chacun des diocèses. Le pape veut que les conclusions puissent être inscrites dans la démarche des églises locales.
Voilà, vous me disiez aussi que parmi les nouveautés, c'est que les pères synodaux vont être invités à des temps un peu de questions-réponses ou de dialogue en plus petits groupes. Ça avait été déjà le cas à l'occasion du synode de la famille. Moi, ce qui m'avait frappé, c'est qu'à un moment, ils étaient même invités, je crois, à partager l'expérience qu'ils avaient de la famille, ou ils avaient eu de la famille entre eux. Ça, c'est pour le synode. On va le laisser se dérouler. Et puis, de toute façon, on s'est donné rendez-vous à la fin de ce synode pour faire une belle émission avec des jeunes, cette fois, pour voilà, voir quelle pagaille le pape François a mis dans l'Église avec eux et quelle suite cela aura. Si on se plonge dans votre livre, voilà, il y a une préface, donc je le disais, du frère Aloïs. C'est important parce que s'il y a bien un lieu qui, on va dire, qui cartonne, comme disent les jeunes, c'est bien Thésée. Et le frère Aloïs, voilà, encourage vivement à la lecture de votre ouvrage. La première partie s'appelle donc « À contre-courant ». On l'a souvent entendu de la part du pape François, il a même des images pour ça. Il invite les jeunes à l'occasion des JMJ de Cracovie, il leur avait dit à sortir de leur canapé. Mais là, vous avez trouvé des extraits et vous allez m'aider à retrouver les bons où il les invite à, comment dire, aller à contre-courant de la culture ambiante. Qu'est-ce que vous pourriez nous citer comme passage qui dit cette adresse vigoureuse à l'égard de la jeunesse ?
Oui, en fait, et puis un petit mot sur le mot pagaille, qui en français a la même origine que le mot pagaie, et qui m'a ouvert l'esprit par rapport à cette image maritime, et cette expression qui revient souvent d'aller à contre-courant, avec des expressions fortes, en fait, de ne pas rester comme des jeunes abrutis, dit-il, ou comme des jeunes légumes, des jeunes qui végètent, qui vivent à moitié. Ce que la société un petit peu montre par rapport aux jeunes, qu'ils mettent de côté. Et le pape François, la pagaille qu'il veut mettre, ou en tout cas qu'il demande aux jeunes de mettre, c'est de ne plus supporter, de dire non à cette culture du provisoire, du rejet, où le culte est lié à l'argent.
Alors j'ai trouvé une citation, ça va peut-être vous aider à lancer votre propos, je dirais, en tout cas à le compléter, je dirais un mot, faire à contre-courant, cela veut dire, donc pour vous jeunes qui vivez cette situation économique, même culturelle, hédoniste, consumiste, avec des valeurs comme des bulles de savon, avec ces valeurs on ne va pas de l'avant, faire des choses constructives, même petites, mais qui nous rassemblent, nous unissent entre nous avec nos idéaux, telle est la meilleure antidote contre ce manque de confiance dans la vie, contre cette culture qui t'offre uniquement le plaisir. Donc il les invite à être contre-culturels quelque part.
Oui, contre cette culture, parce qu'il faut faire attention, il n'est pas contre le monde, il est contre une certaine culture qui veut que la vie se résume au plaisir, qu'on est régenté par l'argent, et effectivement il y revient avec des mots très, très durs sur la loi de l'argent, en fait, qui a remplacé...
Le culte du dieu argent, dit-il.
Oui. Et donc, il veut encourager les jeunes à dire vraiment non, parce que les jeunes refusent, en fait, cette culture-là, parce qu'ils aspirent à autre chose. Et c'est là, je trouve, la belle vision du pape François par rapport aux jeunes, c'est de dire à toute l'humanité, il y a en eux une aspiration que toute l'humanité porte, c'est-à-dire une réelle fraternité, un enthousiasme, une certaine folie, et de croire que le monde va changer. Et ça, les adultes, au fur et à mesure qu'on vieillit, ben on ne croit plus à ça, c'est plus possible, parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et donc le pape désire que tout le monde se mette à l'écoute des jeunes, finalement pour se mettre à l'écoute des aspirations profondes de l'humanité. Des jeunes, et moi j'en suis le curé, désirent vivre l'amour pour toute la vie. Ils ne veulent pas juste des petites histoires, comme le pape François dit, il le voit dans les séries.
Il parle des reality shows, c'est
des
ça
reality shows.
Notre vie ne doit pas être un reality show, je crois qu'il y a un passage comme ça.
Notre vie n'est pas une fake news. Donc il a des termes qui leur parlent. Et il les encourage à croire en leurs aspirations les plus profondes, même si elles sont folles. Il disait ça à Cracovie, on va vous prendre pour des rêveurs. Eh bien tant pis, on a pris Jésus pour un rêveur et on n'est pas plus grand que notre maître.
L'autre chose, c'est qu'il a, donc il invite à prendre la jeunesse au sérieux et il explicite quel est le rôle de la jeunesse. Alors il a ces phrases, trop souvent on parle des jeunes sans se laisser interpeller par eux. Quand quelqu'un veut faire une campagne ou quelque chose, ah il loue les jeunes, n'est-ce pas ainsi? Mais il ne permet pas que les jeunes l'interpellent. Et puis un autre passage... discuter, écouter les jeunes. Parfois, évidemment, vous n'êtes pas les jeunes. Les jeunes ne sont pas le prix Nobel de la prudence. Non, parfois, ils parlent en donnant des gifles. La vie est ainsi, mais il faut les écouter. Les jeunes doivent être pris au sérieux. Qu'est-ce qui vous a frappé dans ce qu'il dit de la jeunesse? Comment vous résumeriez pour lui le rôle de cette jeunesse?
Moi, ça m'a fait penser aux Actes des apôtres quand les disciples à Athènes disent « Eh bien, le Christ est ressuscité ». Et là, les gens bien pensants à Athènes disent « Oui, enfin, ça, on vous écoutera pour plus tard ». Et on a un petit peu ça avec les jeunes en disant « Oui, t'es bien gentil, mais bon, tu verras quand tu seras plus grand ». Et puis à la table des adultes, les enfants ne doivent pas parler. Enfin, c'est un petit peu ça. On a tous été jeunes et on a tous pu avoir certains idéaux. Et pour lui, ce sont vraiment ces idéaux-là qui permettront de faire changer la société en profondeur. Et donc les jeunes ont un rôle, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas seulement l'avenir de l'Église. C'est aussi une autre expression qui, en fait, si on caricature, c'est une expression qui les insulte. Vous êtes l'avenir, c'est-à-dire on vous écoutera plus tard. Mais non, enfin, on n'est pas jeune à 70 ans. Non, on est jeune de 16 à 29 ans. Et ils sont le présent de l'Église.
Est-ce qu'ils en souffrent, ça, les jeunes que vous fréquentez? Est-ce qu'ils ont l'impression que, quelque part,
on
leur laisse pas voir au chapitre?
Encore l'un d'entre eux me confiait qu'il atterrissait dans une paroisse et en fait... il peut pas animer une prière parce qu'on n'a jamais fait comme ça et qu'il faut faire comme si. Et donc, effectivement, les jeunes, c'est dangereux, mais d'une certaine manière, si on ne les accueille pas, ça sera encore plus dangereux, en fait.
Vous avez une phrase comme ça, c'est pour François le signe mystérieux. Je vais prendre toute la phrase. Espérer, c'est donc rêver en dehors du canapé, comme il l'avait commencé à le dire aux jeunes du monde entier au cours de la veillée des JMJ de Cracovie en 2016, où vous y étiez. C'est pour François le signe mystérieux d'une maturité qui se heurte à l'immaturité de beaucoup d'adultes qui n'arrivent plus à rêver. La maturité n'est parfois pas là où on l'entend. Ça me fait penser un peu, je crois que dans les monastères bénédictins, il est dit dans la règle qu'il faut toujours consulter le plus jeune frère, parce que c'est parfois lui qui a la bonne idée.
C'est dans la règle de Saint-Benoît que François a remis dans sa lettre. Et moi, ça me fait penser à si on ouvre la Bible, tous les grands acteurs de l'Alliance et de la révélation de Dieu passent par des jeunes. Moïse, il ne devait pas être très, très vieux. Jérémie dit « Ah, mais moi, je ne vais pas parler parce que je suis un enfant. » Et Dieu dit « Si, si, c'est parce que tu es un enfant que tu vas pouvoir détruire ce qui doit être détruit, planter ce qui doit être planté. » Et puis, il faut penser aussi à Marie, parce que on en parlera plus tard par rapport au courage de croire. Mais Marie, elle ne devait pas être très vieille lorsque elle a enfanté Jésus. Et puis, tous ceux et celles que Jésus rencontre sur son chemin, bien sûr, il y avait des anciens. Et le pape François veille à cela. Mais il y avait aussi des jeunes. Mais si on regarde bien, dans l'histoire de la Révélation, les jeunes ont une place essentielle.
L'autre chose que je voulais voir avec vous avant la pause, avant qu'on se plonge dans les quatre principaux mots-clés, je les recite. Vivez, croyez, rêvez, aimez. En tout cas, c'est ce que vous avez pris comme résumé de la pensée du pape François. C'est que souvent, ce qui ressort de votre ouvrage, c'est que le pape François dit qu'on est, en train de changer d'époque. Alors, on est toujours un peu prudent, je trouve, avec ça, parce qu'on se dit, à chaque époque, on dit qu'on change d'époque. Il ne dit pas que ça quand il parle à la jeunesse. On l'entend souvent dire cela. En tout cas, par exemple, il invite souvent à changer de paradigme. Il dit que c'est quelque part une nouvelle civilisation qui est en train de s'ouvrir. Qu'est-ce que vous avez compris de la pensée de Jean-Paul II sur du pape François sur ce sujet? Est-ce que ça vous a aidé quelque part aussi à comprendre ce qui était en train de se jouer aujourd'hui?
Oui, c'est une expression qu'il connaît bien, enfin qu'il avait déjà utilisée au moment du document d'Aparecida, qui est un document de l'Église d'Amérique latine très important. Et effectivement, on n'est pas dans une époque où on vit des changements. On change d'époque. C'est-à-dire que, par exemple, Dieu semble maintenant absent. Alors que à une certaine époque,
dans le monde occidental en tout cas.
Oui. Mais aussi, on sent bien un déséquilibre international au plan économique, donc qui dépasse seulement l'Occident. On voit bien que les jeunes n'ont plus confiance en la politique, alors qu'il y avait quand même un certain moment où il y avait un a priori plutôt positif. Le terrorisme qui touche toutes les parties du monde inquiète les jeunes en disant mais quel sera notre avenir en fait. Toutes les nouvelles technologies, et on le sent en France avec toutes ces nouvelles lois, on sent bien qu'on peut vite déraper et que c'est pas des changements de l'époque, c'est en fait on change d'époque. Et là où je trouve la force de François, c'est de dire comme les papes l'ont dit, n'ayez pas peur. Bien sûr, il y a de bonnes raisons d'avoir peur face à ce changement d'époque, changement de paradigme, c'est-à-dire où les bases semblent complètement disparaître. Et en fait, c'est peut-être là aussi que le ferment de l'évangile peut toujours être accueilli. En tout cas, l'évangile nous refuse à fuir, à la fuite ni à la désespérance.
Et quand vous commentez ce changement d'époque, vous ajoutez cette phrase dans votre livre, c'est dans la conclusion. Alors aujourd'hui, il est toujours urgent de nous demander qu'est-ce que Dieu nous demande. Et j'imagine que le pape François a posé cette question à la jeunesse, et c'est la question que vont se poser ensemble les pères synodaux. Je rappelle le titre de votre ouvrage et puis on va faire une première pause. Mettez la pagaille, le pape François parle aux jeunes, paru aux éditions Bayard.
Viens Saint-Esprit embraser les nations. Viens Saint-Esprit.
Emmanuel Pella.
Pagaille dans l'église, place aux jeunes, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. On va le dire en ce presque lendemain d'ouverture du synode des jeunes qui s'est ouvert à Rome donc le 3 octobre dernier. Et pour lancer donc ce synode, en tout cas à l'antenne, nous sommes avec le père Arnaud Franck, donc auteur d'un ouvrage intitulé « Mettez la pagaille, le pape François parle aux jeunes ». C'est comme un ouvrage un peu de synthèse sur tout ce que le pape a pu dire aux jeunes depuis son élection, et c'est paru aux éditions Bayard. Pour rappel, le père Arnaud Franck est curé de la paroisse étudiante de Toulouse et responsable du service des vocations pour ce diocèse. Je le redis, on fera une émission avec des jeunes, parce que c'est vrai que c'est pas très synodal comme
émission.
On est déjà
vu un peu ici.
De faire une émission qui parle des jeunes sans les jeunes, c'est un peu compliqué, mais enfin vous êtes quand même c'est un peu étrange, mais vous êtes quand même leur porte-parole. Vous avez mandat, on peut dire. On le disait, il y a 3-4 mots-clés dans votre livre. Donc vivez, croyez, rêvez, aimez. Vous me dites qu'en fait c'est 4 mots du pape François qu'il avait utilisé lors d'un discours. Est-ce que vous pouvez repréciser ?
Oui, comme tous les mercredis, il a l'audience générale publique, et le 20 septembre 2017, il a commencé sa catéchèse en disant « Ma catéchèse aujourd'hui a pour thème éduquer à l'espérance, et c'est pour cette raison que je l'adresserai directement avec le « tu », m'imaginant que je parle comme un éducateur ou un père, à un jeune ou à toute personne ouverte pour apprendre. Alors vis, aime, rêve, crois, et avec la grâce de Dieu, ne désespère jamais. » Voilà, et je trouvais que ces quelques mots résumaient finalement la synthèse qui a été très simple à faire. Hein. Mon livre a été très simple à faire parce que François a une seule parole pour les jeunes. Voilà, face à cette culture dans laquelle il baigne, culture du provisoire, culture du rejet, ce qui est assez lucide de la part du pape, eh bien loin de fuir, eh bien il faut se plonger. Être baptisé, c'est être plongé, donc il faut se lancer, donc il faut vivre, mais pas plus de n'importe quelle vie, aimer, rêver et croire, et surtout ne jamais désespérer.
Alors le premier justement, c'est un appel à la vie. C'est vrai qu'on peut se dire que lancer un homme de son âge qui dit ça à un jeune, ça peut avoir quelque chose de cocasse, mais ce qui est très beau, c'est qu'il parle aussi à la première personne, c'est ce que vous disiez au début de cette émission. Et je ne sais plus quand il a eu cette confidence à l'égard des jeunes, mais il raconte, peut-être que certains auditeurs l'ont déjà entendu, en fait, le jour où quelque part il a été le plus profondément appelé à la vie. Alors je recite ce passage. « Lorsque j'avais 17 ans, un jour où je devais sortir avec mes amis, j'ai décidé de me recueillir d'abord dans une église. Une fois à l'intérieur, j'ai trouvé un prêtre qui m'a inspiré une confiance particulière et j'ai senti le désir d'ouvrir mon cœur dans la confession. Cette rencontre a changé ma vie. » Et je vous laisse peut-être continuer, parce qu'il a découvert la miséricorde de Dieu.
Oui, au fond, c'est de dire... recevez la vie de Dieu et la vie que Dieu chaque fois vous redonne dans sa miséricorde. Elle est où notre force pour affronter tous les grands défis ? Nous sommes catholiques, donc on serait les meilleurs, et donc du coup on pourrait aller à contre-courant. Tu vas contre-courant parce que tu as été toi-même repêché, quoi. Tu sais toi-même ta faiblesse, tu sais que tu as été tenté et même parfois pris dans ces flots impétueux, mais tu connais la force de Dieu qui t'a repêché parce qu'il t'aime profondément, parce que pour lui, tu n'es pas un rejet, justement, parce que tu comptes beaucoup à ses yeux. Et donc, où puiser ta force ? Eh bien, de Dieu qui t'aime jusque dans ton péché, en fait. Il vient te récupérer là et il te donne une force, la force de Saint Paul, la force de tous les apôtres, la force de ceux qui sont embarqués dans cette aventure et qui ne sont pas au-dessus des autres, mais qui ont été repêchés, qui connaissent un petit peu cette eau.
Tu as une force qui vient d'ailleurs, du coup.
Une force qui vient d'ailleurs. Et il y revient toujours lorsqu'il les appelle à vivre. Ce n'est pas juste de vivre comme ça, mais de vivre de la force de Dieu.
Alors, il leur parle, de fait, rapidement de la croix. En tout cas, c'est les passages que vous citez. Il y a un autre passage où il... je crois que c'était également au JMJ de Cracovie, mais j'en suis pas sûr. Tant d'années ont ensuite passé avec quelques succès et de la joie, mais tant d'années d'échecs, de fragilité, de péché. Et là, il parle de lui. 60 ans sur la route du Seigneur, derrière lui, à côté de lui, toujours avec lui. Je vous dis seulement cela, je n'ai jamais regretté. Et puis plus tard, il leur fait cette confidence. Il leur dit, j'ai toujours dans mes poches deux choses. Est-ce que vous pouvez parler de ce passage où le pape François leur dit la chose suivante et où en fait il les introduit au mystère de la croix ?
Alors, effectivement, le mystère de la croix est déjà une parole, c'est de Dieu qui mystérieusement et silencieusement assume le mal. Et ça, le frère Aloïs, dans la préface, l'a bien relevé. Face à certaines situations où la vie ne semble plus être là, quelle parole ? Eh bien, d'abord un silence, l'incompréhension, et la croix, c'est d'abord une incompréhension, mais Dieu qui se fait proche de cette incompréhension, dans le silence. Et alors, le pape François dit, bah, j'ai toujours le rosaire, et puis là, j'ai la croix en moi, qui me rappelle que Dieu est tout proche de moi, et puis l'évangile. L'évangile, parce que c'est une force qui met la pagaille et qui nous permet d'être en communion avec cette vie puissante de Dieu telle qu'elle s'est révélée en Jésus. Alors, dans la poche, eh bien, il y a toujours cette croix et puis aussi un chemin de croix qui permet de voir comment Dieu se fait de plus en plus proche jusque dans le silence de la mort.
Voilà, il les invite aussi à développer l'art de grimper. Il fait cette confidence aux jeunes. Les alpinistes ont une très belle chanson que j'aime répéter aux jeunes. On a l'impression vraiment qu'il est au coin du feu avec eux quand il raconte ça. Pendant qu'il monte, il chante « Dans l'art de grimper, le triomphe n'est pas de tomber, mais c'est de ne pas demeurer à terre ». Autre mot-clé donc, « croyez ». Il a une adresse, alors c'est un peu facile là parce que je prends les passages les plus saillants peut-être ou les plus piquants, mais bon, c'est aussi l'exercice journalistique qui veut ça, ou ça y aide, et ça travaille pas vraiment le pape François et sa parole. Il dit la chose suivante, « Lorsqu'un jeune me dit « Quel temps difficile nous vivons, père, on ne peut rien y faire », eh bien moi je l'envoie chez le psy, car vraiment on ne le comprend pas. On ne comprend pas qu'un jeune garçon, une fille, puisse ne pas vouloir faire de grandes choses, parier sur de grands idéaux importants pour l'avenir. » Incroyable, hein ?
Oui, alors il a rien contre les psys. Hein,
ça vous a surpris ou pas, non ? On imagine que parfois vous deviez bien rigoler, non ?
Oui. Quand il les traite de légumes, j'avoue que j'ai un petit peu jubilé. Mais on voit bien l'ado dans son canapé, justement. Mais justement, il les réveille et puis à un autre moment, il leur dit « Nous ne voulons pas de jeunes faiblards, des jeunes qui sont là sans plus, ni oui ni non. » Nous ne voulons pas des jeunes qui se fatiguent rapidement et qui vivent fatigués avec un visage de gens ennuyés. On veut des jeunes forts, on veut des jeunes avec espérance, avec force. Oui, on sent un bon père qui les réveille et qui justement leur dit « mais vous avez un trésor en vous ». Et c'est là où je pense que il est bon, c'est que il ne les secoue pas juste pour secouer le bananier, même s'il parle du bananier comme force de consentir, mais parce que vous avez un trésor en vous. Tu es quelqu'un d'important. Et ça permet de mettre en mouvement les jeunes.
Il y a une autre adresse qu'on avait déjà entendue à l'occasion des JMJ de Cracovie. Soyez protagonistes de votre histoire. Il les invite souvent à participer à l'histoire, à faire l'histoire. J'aimerais, avant d'aller plus loin, parce qu'on peut se dire que le pape François les secoue, parfois sans complètement les comprendre. Je crois que c'est dans votre introduction, à un moment où vous parlez, vous faites écho à une expression qu'il utilise, la passion des jeunes. On l'avait vu déjà au moment du synode de la famille, le pape François a bien conscience des grands drames qui traversent la famille et aussi donc probablement des grands drames que traverse la jeunesse. Qu'est-ce qui revient souvent dans son discours quand il dit qu'il a conscience qu'il y a aujourd'hui une vraie passion des jeunes ?
Comme je le disais là tout à l'heure...
Il parle souvent par exemple du problème du travail.
Oui. C'est-à-dire qu'il pose un regard réaliste sur leur vie. Les jeunes souffrent, puisque le mot « passion » contient le mot de « souffrance ». Donc les jeunes souffrent parce que certains n'ont pas accès à l'éducation, parce que du coup ils n'ont pas accès au travail. Et il insiste, il revient toujours, il connaît les chiffres. Hein. Mais moi je ne les connais pas, mais lui chaque fois quand il est face à eux, sans papier, il leur dit « tel pourcentage de jeunes qui n'ont pas de travail, et puis tel pourcentage qui partent dans la délinquance ». Parce que soit on les met sur un pinacle et donc on les fait souffrir d'une certaine manière, soit on les rejette. Alors le pape François les secoue parce que finalement on les anesthésie petit à petit. Il y a quelqu'un qui vient là leur mettre cette piqûre-là.
Et vous qui êtes en contact avec beaucoup de jeunes, qu'est-ce qui les fait le plus souffrir aujourd'hui, vous diriez ?
Bah, ce sont les blessures personnelles, d'abord les blessures familiales, mais aussi les blessures de la société, les déchirures qu'il y a dans par rapport aux migrants, par rapport... bon, ils sentent... Mais ce que je trouve fort avec le pape François, c'est que justement, il interpelle aussi les jeunes croyants en disant... la foi n'est pas quelque chose qui vous met de côté, c'est quelque chose qui vous permet de vous plonger dans ces réalités-là. Et ce n'est pas une faiblesse, mais c'est une force. Le pape François allie toujours les deux, la passion des jeunes, c'est-à-dire toutes les causes de souffrance. Il leur montre aussi la passion du Christ qui a assumé tout ce mal-là. Et puis on va chercher ensemble. Mais c'est clair que le pape François ne voile pas son regard sur les dures réalités. Et effectivement, c'est toujours les plus communes. Voilà, c'est essentiellement des souffrances liées au passé, à tout point de vue, c'est-à-dire le passé de la famille, son propre passé, parce que les étudiants, ils ont déjà un petit passé de vie. Et la question, c'est comment je peux faire pour avancer vu tous mes boulets et des boulets qui m'ont blessé, parce que et c'est très beau de leur montrer combien oui, tu as été conditionné par ton histoire, mais tu n'es pas déterminé par ton histoire et donc tu es libre.
Troisième verbe, rêver. Le pape François dit la chose suivante. Un écrivain latino-américain disait que nous les hommes, nous avons deux yeux, un de chair et l'autre de verre. Avec l'œil de chair, nous voyons ce que nous regardons. Avec l'œil de verre, nous voyons ce dont nous rêvons. C'est beau, n'est-ce pas ? Est-ce que vous pouvez expliciter ce verbe rêver, en fait ? À quoi les invite-t-il ? Quelle autre citation vous auriez à citer ?
Oui, j'avoue que c'est le verbe qui m'a le plus plu, parce que c'est peut-être le plus étonnant. On entend bien la parole des parents où t'arrêtes de rêver, ne prends pas tes rêves pour la réalité. Si. Et puis même d'ailleurs la Bible est pleine de rêves et ils disent quelque chose de la réalité. Et l'année dernière, quand je préparais ce livre, je l'ai testé un petit peu auprès des étudiants. Et puis il y en a un et ça m'a beaucoup touché qui me disait mais moi j'ai pas de rêve. Enfin. Le rêve, c'est pas bien. Enfin, non, c'est la réalité. Et là, c'est assez beau, toutes ces expressions qu'il emploie sur le rêve, ce qui permet de révéler justement toutes ces aspirations profondes que portent les jeunes.
J'ai un autre passage. Il dit la chose suivante. Quel est le rêve de Jésus ? Le rêve de Jésus est celui qui est appelé règne de Dieu dans l'évangile. Le règne de Dieu signifie amour avec Dieu et amour entre nous, former une grande famille de frères et sœurs avec Dieu comme père, qui aime tous ses enfants et qui est plein de joie quand celui qui s'est égaré revient chez lui. C'est le rêve de Jésus. Je pose la question, êtes-vous disposé à le faire vôtre ? Êtes-vous disposé à vivre le rêve de Jésus ? Et puis il cite aussi saint François d'Assise en exemple. Qui est quelqu'un qui a rêvé en d'autres circonstances et d'autres temps. Peut-être un autre commentaire sur le rêve. Par moments, il parle des menaces aussi qui existent contre le rêve.
Oui. Il encourage finalement, quand il appelle à rêver, à avoir un cœur large. Et il a un autre passage où il les invite vraiment, et là, on sent l'Ignatien, de pouvoir ouvrir largement le cœur et finalement de découvrir la volonté de Dieu dans nos propres désirs. Là aussi, parfois, on fait une dichotomie. Je refoule mes désirs, je ne m'écoute pas et j'essaye d'écouter ce que Dieu veut. Oui, mais Dieu résonne au plus profond de nous-mêmes et ce que tu désires, c'est ce que Dieu veut finalement. Donc approfondis, creuse et ouvre large ton cœur. Et donc effectivement, il y a des menaces à ce rêve et à cette espérance et à cet enthousiasme parce qu'il lie l'enthousiasme. Et c'est très beau parce que la définition du mot enthousiasme, c'est Dieu qui est en nous.
Entheos.
Entheos. Et donc, il ne les invite pas à un optimisme béat, comme on pourrait le caricaturer chez Decato. Non, à être enthousiaste. Et je me souviens le visage rayonnant d'une étudiante qui, lorsqu'elle a su cette étymologie, elle s'est dit « mais en fait, Dieu est en moi ». Et comme le prophète Sophonie, il se réjouit en moi. Et donc, c'est toujours un appel à s'écouter.
On va faire une deuxième pause et puis on va vous retrouver pour parler du dernier verbe, dernier verbe, aimer. Et puis quelques questions sur la paroisse étudiante pour savoir quelle pagaille les étudiants mettent à la paroisse étudiante, n'est-ce pas ?
Oui, il y en a beaucoup.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Pagaille dans l'Église, place aux jeunes, c'est donc le thème pour rappel de l'émission de ce matin avec le père Arnaud Franck, prêtre et curé de la paroisse étudiante de Toulouse entre autres et auteur d'un ouvrage paru aux éditions Bayard, Mettez la pagaille, le pape François parle aux jeunes. Voilà, travail on va dire de synthèse sur les multiples adresses du pape François aux jeunes, en tout cas jusqu'à l'ouverture ou presque de ce synode donc pour les jeunes qui a commencé donc le 3 octobre dernier à Rome et qui courra jusqu'au 28 octobre. Et je le redis pour ceux qui par hasard nous prendraient en cours de route, on aura une émission après le 31 octobre avec des jeunes cette fois. Le dernier verbe, c'est donc le verbe aimer. En tout cas, c'est le dernier chapitre de votre livre. Dernière adresse du pape François aux jeunes, en tout cas un des grands axes. Je rappelle les autres, hein, parce que c'est comme ça qu'on arrive à comprendre ou à dérouler la pensée du pape François. Vivez, croyez, rêvez. aimer. Alors il dit plein de choses, peut-être pour vous lancer ce que j'ai retenu. Il n'y a pas que lui qui dit ça, mais c'est de la part d'un pape, c'est vraiment bouleversant. Dieu attend quelque chose de toi. Il faut le dire quand même, hein. C'est comme aujourd'hui, c'est très à la mode, Dieu a un projet pour toi. Alors parfois on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. Mais imagine qu'il faut le prendre au sérieux, si le pape le dit.
Oui, si tu es sur cette terre, c'est pour quelque chose. Tu n'es pas un rejet, hein, pour reprendre cette expression. Tu es une créature de Dieu. Et s'il fallait résumer un petit peu la pensée, ou en tout cas dessiner le chemin que le pape veut pour les jeunes, c'est: vous êtes capable de changer la culture du rejet en culture de la rencontre. Vous êtes capable, à travers vos rencontres, de tisser des liens qui bâtissent, ce que diraient les anciens papes, la civilisation de l'amour. Oui, parce qu'au cœur de notre foi, la seule réponse, la seule parole, la seule attitude, c'est l'amour, c'est la charité. Et ce que je trouve beau, c'est qu'il le dit autrement, peut-être, aussi avec des mots de solidarité, de culture de la rencontre. Passer de la culture du rejet à la culture de la rencontre, avec tous ces liens, avec Dieu, avec l'Église, avec les prêtres, avec les familles, avec les anciens. Il insiste beaucoup sur les relations entre les grands-parents et les petits-enfants. Et puis aussi ceux qui ne croient pas, les autres croyants, les pauvres, voilà. D'être vigilant à tous ces liens, voilà notre réponse. Voilà ce que Dieu attend de toi, c'est de l'aimer, de t'aimer et d'aimer les autres.
D'ailleurs, souvent lors de ces rassemblements, si j'ai bien compris, disons que j'en ai plus fait depuis que le pape François est élu, mais il les invite souvent à un temps de silence, à se prendre la main, comme pour signifier
cette fraternité.
Et puis il y a un passage dans votre livre où vous dites que lors de ces rassemblements avec les jeunes, c'est comme si le pape François voyait se réaliser
son rêve et le rêve de Dieu,
oui. Le rêve de Jésus.
Isaïe 11, ce beau passage où le loup habite avec l'agneau, où le léopard broute avec, le léopard il broute pas, mais toute cette jungle qui devient finalement un bel havre de paix. Et voilà, c'est cette pagaille en fait qu'il faut mettre, et c'est d'être capable de tisser des liens comme le Christ l'a fait dans l'évangile. J'ai cette expression du pape François: n'ayez pas peur de mettre la pagaille, de poser des questions qui fassent réfléchir les gens. L'évangile croît toujours à partir des petites racines. C'est pour cela, faites-vous entendre. Je voudrais vous demander de crier, pas avec la voix, mais par votre vie.
Alors il y a une phrase dans ce chapitre, ça peut introduire peut-être le dernier volet de cette émission, c'est lorsque Jésus touche le cœur d'un jeune et d'une jeune, ceux-ci sont capables d'actions vraiment grandioses. Quand on est curé d'une paroisse étudiante, qui a donc presque 1000 personnes qui viennent à la messe chaque dimanche.
Au moins. Il y en a au moins, on va dire, 500.
Ah, moins 500,
ce
pardon.
Qui est déjà pas mal.
Pensons, je croyais que c'était un millier. Bref, en tout cas, il y a du monde. On imagine que Jésus touche le cœur de jeunes au milieu de vous.
Oui.
Qu'est-ce que vous avez vu comme chose grandiose? Et puis, deuxième question, c'est comment on fait pour accompagner? Ça veut dire qu'à entendre le pape François, il faut laisser un moment, les laisser passer devant et mettre la pagaille, et puis peut-être faire le tri après, non? Comment vous y prenez?
Le pape dresse le portrait du prêtre tel qu'il le voit. Et l'un des mots qui revient le plus souvent, c'est la proximité, c'est la tendresse, c'est l'écoute, c'est d'être au milieu du peuple, non pas sur la touche. Si on prend une autre image qu'il aime bien, le foot, les prêtres, ce sont ceux qui jouent. Voilà. Ou prenant une image locale, il faut se mettre dans la mêlée. Voilà. Mettez la pagaille, c'est Dieu qui presque le dit à Jésus, enfin le Père qui le dit à Jésus, va mettre la pagaille dans ce monde. Et l'une des réalités qui m'ont vraiment le plus bousculé, mais positivement, c'est l'accueil d'étudiants qui demandaient le baptême. Donc il y en a eu 6 l'année dernière et sûrement cette année au moins une douzaine, quinzaine.
Racontez un peu comment ça se passe, c'est-à-dire que vous n'y attendiez pas et puis des jeunes sortis de nulle part viennent vous demander...
Alors à Toulouse, voilà, il se trouve que la paroisse étudiante a une certaine visibilité dans le centre-ville et ça s'est fait, des jeunes qui ont frappé à ma porte, d'autres qui ont été amenés par des amis et... mon histoire, c'est cette blessure dans la famille, c'est tout cet anticléricalisme, ces familles anticléricales, pardon. Et pourtant, je ressens une paix lorsque je vais dans une église. Et lorsque j'ai ouvert l'évangile, j'ai été attiré par ce type-là, qui dit aimer vos ennemis, qui est finalement le summum de l'amour, qui arrive à réunir des gens... que normalement tout doit séparer. Et moi j'ai été vraiment impressionné de voir combien l'évangile touchait le cœur de ceux qui visiblement peut-être avaient le cœur le plus fermé ou en tout cas avaient les raisons de ne pas croire. Et là Dieu met la pagaille en fait. Et d'abord dans leur vie, et ils sont un petit peu désorientés parce que leur famille ne le soutient pas, parce que il y a des blessures énormes. Mais malgré tout, il y a l'évangile comme ça qui est semé. Et nous, qu'est-ce qu'on a à faire ? On a à les accompagner. Ça nous bouscule. Ça nous montre bien que l'église est davantage un hôpital de campagne et qu'on est là pour écouter, pour guérir, comme disait le frère Roger. Quand l'église écoute, console, réconcilie, elle devient ce qu'elle est au plus lumineux d'elle-même, un reflet de consolation, c'est-à-dire le reflet du Christ ressuscité. Alors nous, ça nous permet effectivement de ne pas être une structure, de ne pas être des prêtres fonctionnaires, finalement de chasser ce cléricalisme que ne veut pas le pape François, et d'être vraiment à l'écoute de ceux qui viennent.
Est-ce qu'il y a d'autres pagailles, je sais pas, des étudiants qui sont venus vous voir et qui vous ont dit moi je sens que Dieu m'appelle à faire ça, à vivre ça, et ça faisait pas partie de votre projet, et vous disiez, mon Dieu, ça va mettre le bazar, et est-ce que vous avez des... On imagine que c'est pas forcément facile de faire la place à ce type d'initiative, hein, mais est-ce que ça vous est arrivé? Est-ce que vous auriez des exemples?
On va dire, ce sont davantage des exemples plus personnels, par exemple. J'ai été très touché que plusieurs étudiants liés à la question de l'homosexualité osent frapper à la porte du presbytère pour que je les écoute. Dans le diocèse de Toulouse et comme dans tous les autres diocèses, au moment de la consultation du synode, on a bien vu qu'il y avait cette question-là qui heurtait beaucoup les jeunes, c'est-à-dire quel regard porte l'Église sur l'homosexualité. Et lorsque j'ai accueilli cet étudiant visiblement est un garçon mais qui s'habille en fille, forcément ça bouscule un petit peu. Et puis quand on l'écoute, on entend un cœur humain et qui a besoin d'être écouté. Je dirais c'est plus des pagailles liées à l'histoire de chaque personne. Une autre fille qui vient d'une autre religion et qui du coup a sa vie un petit peu bousculée parce qu'elle a fait la rencontre de Jésus et qu'il y a cette pagaille là. Après je dirais lorsque chaque jeune découvre que Dieu pose un regard sur lui, il y a une pagaille qui se fait dans leur vie, mais comme le dit le pape François aussi, et c'est la conclusion du livre, c'est mettez la pagaille, mais attention, c'est pas une pagaille qui met dans le... Enfin, c'est une pagaille qui construit, en fait. C'est une pagaille qui permet d'avancer. Je suis assez touché d'entendre tous ces étudiants qui pressentent bien que l'évangile met la pagaille dans leur vie. Bien sûr, tout n'est pas ajusté en eux et en même temps, ils ont une soif d'autre chose et ils avancent.
Pour finir, qu'est-ce que vous diriez, quelle est l'attente des jeunes de Toulouse? Parce qu'en fait, il y a eu un espèce de pré-synode où il y a une phase consultative où on a demandé à tous ceux qui étaient en lien avec ces jeunes de par le monde de leur demander ce qu'ils avaient à dire en fait à l'Église. Ou en tout cas à ses responsables. Est-ce qu'il y a, je sais pas, une attente forte autour de ce synode de la paroisse étudiante, ou alors est-ce qu'ils se disent bon, très bien, on va suivre ça de loin? Et si attente il y a, quelle est-elle?
Alors, il y a une attente parmi les jeunes chrétiens que l'évangile devienne vraiment crédible. C'est-à-dire que ça ne soit pas juste une parole en l'air.
Ça ne va pas être le travail d'un synode.
Non, mais ça a le mérite de le remettre au centre de nos discussions et de notre vie ecclésiale. Donc de rendre toujours plus l'évangile crédible, c'est la vision de notre évêque, que tout soit un. Donc le monde ne croit pas parce qu'en fait on est divisé. Et ça les jeunes le ressentent bien. Bien sûr que le monde ne croit pas, parce que quand on voit les chrétiens qui sont divisés et qui ne s'aiment pas, c'est un contre-témoignage crasse, quoi. Voilà. Ils attendent aussi de l'Église beaucoup plus de proximité, d'humilité, de transparence, une Église davantage qui cherche la vérité aussi, qui cherche aussi l'intériorité. Il faut pas croire que les jeunes sont tout le temps euphoriques. Non, ils ont une réelle soif de silence, d'intériorité. Et puis, voilà, de répondre aux grandes questions que l'humanité se pose. On l'a évoqué à l'instant sur l'homosexualité, sur le divorce, sur l'écologie, sur les migrants. Toutes ces questions-là, elles sont vives chez eux. Parce que pourquoi ? Bah, c'est le monde qu'ils sont en train de bâtir et c'est le monde de demain.
Pour finir, quelle serait votre attente à vous ? Vous diriez, qu'est-ce que vous attendez de ce synode ? On imagine qu'il sort toujours d'un synode comme une forme d'actualisation de l'évangile, en fait. Qu'est-ce que vous appelez de vos voeux ?
Bah, de réveiller la joie. En sentant que la joie est au cœur de notre foi, c'est au cœur du message du pape. Il y a eu la joie de l'évangile, la joie de l'amour. La prochaine exhortation apostolique aura sans doute le mot de la joie. Et dans ce monde où, effectivement, il y a de bonnes raisons de ne pas croire et de ne pas être heureux, finalement, grâce à la jeunesse, de réveiller la joie, et une joie contagieuse, et une joie qui vient de l'évangile. Moi, mon désir le plus profond, c'est que tous les jeunes entrent pleinement dans ce qu'est vraiment l'évangile, la rencontre avec le Christ, non pas de nos caricatures, mais du vrai visage que Jésus veut révéler de Dieu et de ce rêve qu'il a de voir toute l'humanité comme une famille. Mais c'est peut-être la joie, que les jeunes soient heureux de croire et de vivre.
Mettez la pagaille, le pape François parle aux jeunes, c'était pas le titre de l'émission Vivante Église, mais donc c'est le titre de votre ouvrage aux éditions Bayard, préfacé donc par le frère Aloïs Prieur de Thésée. Merci beaucoup d'être venu ce matin au micro de Radio Présence. C'est donc rendez-vous est donné le 31 octobre après le synode pour parler de ce synode avec les jeunes et voir peut-être quelle pagaille ils vont être autorisés à mettre demain dans l'église, peut-être même ici dans notre région, en particulier à Toulouse. C'est vrai qu'on a mis l'accent sur Toulouse, mais la paroisse étudiante brasse évidemment des jeunes étudiants qui viennent de toute la région. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.